Qu'est-ce que c'était ?
Les jeux de la roulotte.
Toi aussi t'as entendu ?
Bien sûr que j'ai entendu.
Il n'y a pas un joueur au monde qui soit aussi doué que toi.
Il y a un joueur qui me fait peur.
Qui ?
Le russe.
Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Lancez les dés pour déplacer votre pion, un double donne le droit de rejouer. Le premier qui arrive au bout a gagné. Tu veux jouer ? Au revoir.
Ce matin, je reçois Ghislain de la ludothèque La Roulotte. Bonjour Ghislain.
Bonjour à tous.
Comme chaque mercredi matin, tu nous présentes deux jeux de société. Et ce matin, tu en as deux, donc Petit Peuple et The Key, où on peut commencer par The Key. Je me demande bien ce qu'on pourra ouvrir avec.
Ah oui, on est sur un petit jeu d'enquête. Je vous en présente pas mal des jeux d'enquête en fait, mais c'est qu'il y en a beaucoup.
Et ils sont tous différents.
Ils sont tous différents, ouais, et depuis bien 4 ans maintenant, il y en a bien, hein. Il y en a pas mal. Ouais, c'est une petite mode là, les jeux d'enquête. On a les jeux d'enquête, on a les jeux d'escape game, alors ça, il y en a à foison dans les magasins. C'est en 2021, donc l'année dernière, que ABBA, à la base éditeur de jeux plus pour enfants, hein, j'avais pu vous présenter la semaine dernière Trésor de la mine, par exemple. Et là, en fait, ABBA, il a décidé de sortir son propre jeu d'enquête, mais aussi d'observation, plutôt accessible dès 10 ans, parce qu'il y a quand même pas mal de logique à prendre en compte. Et les parties se joueront entre 20 et 30 minutes.
Oui, ABBA, généralement, ils faisaient plus pour les plus petits.
Ouais, alors, normalement, ABBA sont très basés petits. Depuis quelques années, ils ont réussi à développer une gamme à partir de 8-10 ans.
Ok.
Voilà, il y a eu des semi-échecs, il y a eu quelques très très bonnes réussites, et je pense que The Key en fait partie. Il en existe déjà 3 boîtes différentes de The Key, ils en ont sorti 3 d'un coup, et elles ont toutes des niveaux de difficulté différents. Donc... Alors moi je vais prendre l'exemple sur la boîte The Key, vol à la Villa Clifford, parce que c'est la seule que j'ai pu faire, c'est la seule qu'on a à la Ludo, donc n'hésitez pas à venir la tester, on sera là pour vous l'expliquer.
C'est le niveau 1 ?
Ouais, c'est le niveau 1, ouais.
Ça va, on commence par le début.
Oui, non mais ouais, puis c'est cool, voilà, on se met pas en danger, il n'y a pas trop de difficultés, et après on pourra augmenter. Comme je vous disais, chaque boîte a un petit niveau de difficulté différent, et The Key vous propose à chaque enquête de résoudre non pas 1, ni 2, mais bien 3 vols. Et ouais, on va prendre un exemple avec la première boîte. Il y aura à chaque fois, à chaque enquête, 3 suspects à trouver, 3 objets et 3 moyens de fuir. Il faudra donc les associer afin de savoir quel vol a eu lieu à 13h, quel vol a eu lieu à 14h et à 16h, tout en trouvant à chaque heure qui est le coupable et comment il est parti et avec quel objet. Donc voilà. Donc à chaque fois, 3 mini-enquêtes au sein d'une enquête. Pour la mise en place, chaque joueur va récupérer un petit écran et un stylo. Sur cet écran, on pourra y apposer des notes, faire des déductions, entourer le bon coupable ou rayer les mauvais, voilà, bref. On étalera aussi sur la table toutes les cartes face cachée du jeu et on y mettra la clé de l'aventure qu'on aura choisie. Parce qu'il y a quand même 9 aventures ou 9 enquêtes différentes par boîte. Allez, là, on va prendre l'exemple, on va choisir la clé rouge. Donc on va prendre la clé rouge qu'on va mettre sur la boîte.
Donc voilà. Là, le but, en résolvant cette énigme, ça va être d'obtenir la clé.
Exactement.
Qui obtenir va nous emmener la clé ailleurs.
Exactement, la clé va nous emmener ailleurs, tout à fait. Et là, le jeu va pouvoir commencer. Et la petite particularité du jeu, c'est qu'on va tout jouer en simultané. Et alors là, c'est parti, il n'y a plus d'amitié. Rapidement, on va prendre une carte face cachée, mais attention, on ne prend pas n'importe laquelle. Il faut toujours prendre une carte qui correspond à la couleur de l'enquête en cours. Donc là, comme c'est la clé rouge, il faut prendre une carte où il y a du rouge dessus. Hop, je la prends, je la regarde. Ça va être des petites phrases qui vont être marquées du style « cet objet a été volé avant lui ». Où la personne qui a volé à 13h faisait plus d'1m80. Donc je vais pouvoir faire des déductions, supprimer des suspects, en déduire le coupable, ainsi de suite, pour chaque heure, à chaque fois. Voilà. Oui. Et je continue. Mais il faut que je fasse gaffe à la carte que je choisis, parce que chaque carte va avoir un coût. Puisque le but, quand même, à la fin de la partie, ça va être d'utiliser le moins de points possible. Donc forcément, on va tous vouloir utiliser les cartes de valeur 2 qui sont les plus faibles. Mais le problème, les cartes de valeur 2, elles vont donner vraiment des indices tout pourris et assez difficiles à résoudre. Alors que les cartes 4, qui elles valent beaucoup de points, vont vraiment t'aider dans le dénouement de l'enquête.
Donc c'est ça, en fait, à chaque fois, les cartes, c'est un indice différent.
Les cartes, c'est un indice différent. Et en plus, sur la carte, ça te dira quel type d'indice ça va te donner. Est-ce que ça va être un indice sur l'heure? Est-ce que ça va être un indice sur une personne, sur un objet?
Ah oui, voilà. On est quand même bien aidé.
On est bien aidé parce que le but, c'est de quand même optimiser le choix de ces cartes pour essayer d'utiliser le moins de points, puisque chaque carte qu'on a utilisée, on les garde à côté de soi. On ne les remet pas au milieu de la table, on les garde pour compter à la fin le nombre de points qu'on a utilisés.
Et ce qui fait aussi que chaque personne aura des indices différents.
Exactement, exactement. Mais à la fin, on doit avoir tous le même résultat, normalement.
Oui, normalement.
Parce que là, on est quand même sur un jeu compétitif, hein. Mais il y a aussi, comme je vous disais, des énigmes qui sont visuelles parce qu'on va avoir tous un petit livret d'enquête. Sur ce livret d'enquête, il va y avoir par exemple la photo des trois suspects et on va avoir des indices par rapport à ces photos. On va aussi des fois nous montrer un objet sur un indice. Et bien là, on va aller voir le sac des suspects et on va regarder, il était dans le sac de cette personne, donc on sait que c'est elle qui a volé ça.
Okay.
Donc voilà, il y a aussi des petits indices visuels qui apparaissent et ça, c'est très sympa. À la fin, on aura un petit code à noter, tac, 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 par exemple 313. La première personne qui a noté son code récupère la clé et avec cette clé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le petit plateau en carton qui est fourni dans le jeu, il va chercher le chiffre 313 et il va y insérer la clé à l'intérieur. Il va retourner la boîte. Si c'est bien rouge derrière le chiffre 313, ça veut dire qu'il a bien réussi l'enquête. Si la clé correspond à la couleur derrière, c'est que c'est bon, il a réussi l'enquête. Mais il n'a pas forcément gagné. Puisque je rappelle que toutes les personnes vont quand même vérifier si elles ont aussi résolu l'enquête. Et à la fin, c'est seulement la personne qui aura utilisé le moins de points qui gagnera la partie.
Donc déjà, si la personne se trompe dans la clé...
C'est foutu.
C'est foutu. Et voilà. Ensuite, si les deux... il faut juste attendre que l'autre personne... il faut attendre que l'autre personne ait terminé.
Exactement.
Et puis compter les points.
Exactement. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'utiliser le moins de points. Donc rien ne t'empêche de prendre vraiment ton temps et de réfléchir à chaque indice que tu as.
Plutôt que de piocher 15 millions de cartes.
Exactement. Parce que plus t'en pioches, et voilà, plus tu risques de perdre. En fait, la personne qui a récupéré la clé en premier aura un petit avantage, c'est qu'elle pourra enlever 2 points de son total de cartes utilisées. C'est un tout petit bonus. Comme elle a fini en premier, voilà, t'as un petit bonus, t'enlèves 2 points. C'est cadeau.
L'équivalent d'une carte, quoi.
L'équivalent d'une carte, exactement.
Ouais, si ça se joue un peu, ça peut être utile.
Et ça peut... Alors, c'est un petit jeu qui peut se jouer seul ou jusqu'à 4, puisqu'il y a 4 chevalets différents. Il y a 3 boîtes différentes, donc on est quand même sur 9 x 3, 27 enquêtes différentes. Et ce que je trouve vraiment sympa par rapport à un Unlock ou une chose comme ça, c'est que les enquêtes, on peut les faire assez vite. Mais en fait, j'en ai refait une il n'y a pas longtemps et je ne me souvenais plus du code. Donc en fait, on les oublie vite, les codes.
Ah oui,
et on peut très bien les refaire.
C'est ce que je me demandais justement, puisque est-ce qu'une fois qu'on a fait l'enquête, bien on connaît déjà le coupable et puis voilà.
Oui, on le connaîtra, mais le système de création de code est bien fait. Et du coup, ça nous embrouille un peu et ça nous permettra de la rejouer d'ici 1 mois, 2 mois pour le faire découvrir à d'autres personnes.
Ok, bon, ça
ouais,
c'est
par
ça,
rapport
c'est
à un lock qui fonctionne très très bien.
Et puis même si on connaît le coupable et qu'on repioche des cartes, de toute manière on n'a pas spécialement 100% de chance de gagner puisque les autres sont là aussi et peuvent être plus rapides.
Exactement.
Et ça s'appelle
The Key,
oui, mais évidemment la clé. Les petits peuples aussi, c'est un autre jeu que tu as sous le coude.
Ouais, petits peuples. Alors là, nouveauté. Hein, moi, je suis là aussi pour vous parler des nouveautés. Donc, Petit Peuple, c'est un jeu qui est arrivé il y a 3 semaines. Voilà, vraiment récent. Hein. Donc, un petit jeu magnifique de l'éditeur Bombix. Alors, Bombix, c'est un éditeur qui vraiment met l'accent sur le matos. Le matos est très important. La direction artistique des jeux est très, très importante. Et alors là, ils viennent de nous pondre un petit chef-d'œuvre visuel. Alors, comme son nom l'indique, Petit Peuple, vous allez prendre le contrôle d'un peuple miniature qui a trouvé sa terre promise dans un jardin abandonné. Et là, le but du jeu, ça va être d'avoir le plus de points de victoire, c'est-à-dire d'essayer d'optimiser au mieux son espace. Voilà, tout simplement. On est vraiment sur un jeu de stratégie qui se joue, je dirais bien, les premières parties en 1h30, hein. Ça reste accessible à partir de 10 ans, c'est jouable entre 2 et 4 joueurs. Voilà, il faut quand même être un petit peu joueur pour commencer à y jouer.
Il faut une bonne partie.
Ouais, c'est une bonne partie, ouais. Au niveau de la mise en place, on va tous récupérer un plateau personnel et des petites maisons. Et ces petites maisons, elles sont toutes en 3D. Hein. Toutes en 3D, en petit plastique mou. Hein. Et elles sont toutes différentes par rapport aux joueurs. Moi qui suis le joueur vert, j'aurai des maisons vertes, mais qui auront des formes complètement différentes par rapport à celles du joueur jaune. Alors ça, c'est un petit truc personnel, mais ça me plaît vraiment parce que ça aide à l'immersion dans le jeu, le fait qu'on ait tous des formes de maisons différentes.
Et elles sont originelles, les maisons. C'est pas simplement des maisons avec une porte et deux fenêtres. Enfin, de ce que je vois du visuel du jeu, j'ai l'impression que... Vraiment,
ouais, il y a des formes différentes, il des rondes, des carrés. Ah ouais, non, mais ils ont vraiment mis l'accent sur ça au point où même les sculpteurs des maisons sont mis sur le dos de la boîte.
Waouh.
Ouais, donc ils ont vraiment annoncé qui a sculpté ça, ils ont vraiment voulu...
C'est de la création, quoi.
C'est de la création. Voilà, il y a vraiment un travail très important qui a été fait autour de ça. Donc les maisons, elles sont toutes choupies, hein, comme je dis, et chaque joueur aura du coup une couleur différente de maison, mais surtout une forme différente. Comme je vous disais, ça va vraiment apporter un vrai plus à l'immersion du jeu. Mais maintenant, le plateau central. Alors là, le plateau, il est composé de 7 tuiles. Chaque tuile est composée de 7 petits terrains différents. Voilà. On va disposer des objectifs communs à tous les joueurs au milieu de la table. Et comme je vous disais, le but du jeu, ça va être d'avoir le plus de points de victoire. Et là, on va commencer. Mais à son tour, qu'est-ce qu'on va faire ? On va choisir une des 7 grandes tuiles sur la table. Sur la tuile qu'on a choisie, on va y choisir un type de terrain et faire notre action. Et c'est là où va apparaître la magie du jeu, parce qu'à l'endroit où tu vas faire l'action, ça va déterminer l'action pour le joueur suivant.
Oh.
Et ouais, exactement. L'endroit où tu fais l'action, ça va imposer le lieu de l'action du joueur suivant. Ça, c'est très sympa, parce que tu vas te dire, est-ce que je joue là au risque de prendre beaucoup de points, mais d'aider le joueur suivant ? Ou est-ce que je fais vraiment une action pas top, et je sais que lui, derrière, il aura une action pas top non plus ?
Et
c'est
du
donnant-donnant.
Comme action, du coup, on a quoi ?
Eh bien, comme action, on a quoi ? Ben, c'est sur le type de terrain qu'on a choisi, c'est soit on va pouvoir y construire une maison, soit on va pouvoir prolonger notre maison, ou au contraire, démolir une de notre maison.
Donc là, ça se passe vraiment autour des maisons ?
Exactement, autour des maisons. Si je veux construire, il faut que l'emplacement soit libre, vide. Je construis, ça ne va pas me coûter des sous, ça va me coûter des habitants. Donc je vais retrancher mon nombre d'habitants. Bah ouais, je les mets dans une maison. Si je veux augmenter mon étage, bah ça va me coûter plus cher. Ça me coûte plus cher à chaque fois que je veux rajouter un étage. Voilà, donc je vais perdre des habitants. Le problème, c'est que le jeu, il est construit sur une mécanique vraiment de flux tendu, dans le sens où on va vraiment plus perdre d'habitants qu'on va en gagner. C'est ça le problème. Donc à un moment, on va peut-être être obligé de se dire je vais détruire une maison. Et cette maison que je détruis, à la place, je vais récupérer des habitants.
Et tu reloges les habitants.
Et comme ça, au tour suivant, je pourrais reloger des habitants dans des habitats déjà construits où je pourrais du coup agrandir la maison ou dans un nouveau lieu qui m'intéresse plus. Et ouais, parce que les maisons, je ne vais pas les construire à n'importe quel endroit. Ça va dépendre des objectifs communs. En gros, ça va être des objectifs du style essayer de construire deux habitats côte à côte sur deux types de terrains côte à côte. Et en plus, il faut qu'ils aient des hauteurs de maisons différentes. Mais ces objectifs, ils sont communs à tous les joueurs. C'est-à-dire que le joueur d'avant, il va peut-être vouloir me le piquer, l'objectif. Et moi, je vais me retrouver bien, bien bête. Du coup, ma maison ne me servira plus à rien. Donc, autant que je la détruise pour l'utiliser pour une action ailleurs.
Donc, c'est un objectif commun, mais le premier qui le réalise... à gagner.
Exactement, il gagne cet objectif commun-là.
Oui, voilà.
Exactement.
Gagne certains
points. On en remet aussi sur la carte, sur la table à chaque fois, parce qu'il y a toujours 4 objectifs communs.
C'est intéressant parce qu'on peut être vraiment focus sur son objectif, avoir tout son plan, et en fait, on n'a pas le temps de le réaliser, et il faut tout recommencer.
Bim, tu te le fais piquer par un autre. Et là, t'as vraiment les boules.
J'adore ce jeu.
T'as vraiment les boules. En fait, c'est clairement un jeu de majorité, hein, parce que tu peux aussi gagner des habitants à la fin de la manche. À la fin de la manche, sur chaque lieu, sur chaque grosse tuile, on va regarder qui est majoritaire, qui a construit le plus de maisons. Et ce joueur ou cette joueuse récupérera 2 habitants.
D'accord.
Voilà, donc on peut quand même en récupérer un petit peu, mais c'est vraiment très léger, les habitants qu'on peut récupérer.
Donc là, on a la mécanique avec les habitations, les objectifs communs, mais du coup, il y a aussi une histoire de points dans tout ça.
Il y a une histoire de points, puisque chaque objectif que tu réalises te rapporte des points.
D'accord.
À la fin de la partie... On aura aussi tous un objectif personnel. Si on le réalise, on aura des points. Et plus tu as d'habitants qui te restent à la fin de la partie, plus tu auras de points.
Eh bien, j'y vois déjà beaucoup plus clair.
Ouais, et puis vraiment, le jeu, pour ceux qui connaissent, il est lié à la mécanique du super morpion. Voilà, en fait, t'as le morpion classique où t'as un cadre de 3 par 3, sauf que là, t'as ce cadre de 3 par 3, mais qui est multiplié par 9. Donc en gros, à l'endroit où tu vas jouer, ça va aussi déterminer le lieu de l'action suivante sur une autre tuile pour l'autre joueur. C'est tout simplement ça le principe, ça reprend le principe du super morpion. Et excellente idée aux deux auteurs, à Nathalie et Rémi Saunier, que j'embrasse d'ailleurs parce que j'ai pu les rencontrer en festival et c'est un couple trop adorable. Ils sont trop mignons, ils respirent la joie de vivre, ils font des jeux vraiment tout choupi et là on est vraiment sur leur premier jeu gros joueur. Et chapeau bas pour leur mécanique qui fonctionne très bien. Comme je disais, le fait de quand tu joues à un endroit, ça détermine l'action du joueur suivant, ça c'est très fun. Mais au-delà de ça, c'est qu'une fois que tu as fini ton tour, c'est toi qui choisis qui va jouer après. C'est pas déterminé, il n'y a pas un ordre de tour déterminé.
Le lieu détermine l'action prochaine, mais après il reste encore à déterminer le joueur.
Exactement, moi je vais te choisir toi parce que je sais qu'à cet endroit-là,
Tu vas perdre.
Enfin, ça va rien te faire. Tu vas pas me mettre en danger, moi. Donc voilà. Non, c'est vraiment très très malin. Donc bravo à Rémi et Nathalie Saunier. Je suis vraiment, je dis sans honte. J'ai du mal, moi, avec les jeux de majorité comme ça. Mais j'ai vraiment pris pas mal de plaisir. Je pense qu'il trouvera vraiment son public. Donc allez-y, foncez. On est sur un jeu qui est vraiment pas si cher. Il doit être aux alentours de 50€. Mais il y a un matériel à l'intérieur magnifique. Et des règles qui sont super bien écrites. Une super explication de jeu. Vous scannez les règles. Hop, il y a une explication vidéo qui apparaît sur votre écran pour pouvoir installer en même temps et débuter à jouer tout en ayant les règles vidéo. Non, vraiment, beau travail aux auteurs et à l'éditeur. Ouais. Allez-y, foncez.
Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté très visuel avec ce côté vraiment création et en plus le côté complexe du jeu pour un jeu long. Donc voilà, bravo aussi.
Bravo pour ce jeu de stratégie slash casse-tête, slash doliprane, slash ibuprofène.
Ouais. Petit Peuple et The Key sont les deux jeux que tu as présentés aujourd'hui. Merci beaucoup, Ghislain.
Eh bien, merci à vous.